Alors bonjour à tous, donc moi c'est Nour Le Duc, donc je suis doctorante en droit de la bioéthique et de la santé. Et j'ai eu le plaisir d'être invitée par l'équipe des GBU pour vous parler du coup des perspectives juridiques liées à la contraception et à l'IVG. Donc j'espère pouvoir vous intéresser avec les règles juridiques ou en tout cas pas trop vous assoupir, ça sera déjà pas mal. Alors ce matin, on va traiter ensemble des règles liées à la contraception. Cet après-midi, on traitera de la question de l'IVG. Alors, concernant la contraception, on va voir que toutes les règles liées à la contraception ont été développées de manière à permettre un large accès à la contraception. Et pourquoi est-ce qu'on a cherché à permettre un large accès à la contraception ? En fait, on va voir que c'est lié à la volonté de pouvoir limiter le plus possible le recours à des avortements suite à des grossesses indésirées. Alors, suite à la Première Guerre mondiale, la situation démographique de la France est au plus bas. Le gouvernement a pour objectif, en fait, de relancer la natalité. Et du coup, il adopte la loi du 31 juillet 1920 qui vient interdire la propagande anticonceptionnelle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi ? On vient interdire l'importation, la fabrication, la vente et l'utilisation des contraceptifs. D'accord ? L'objectif, c'est de relancer la natalité. Sauf qu'on constate que ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Parce que les femmes préfèrent avorter plutôt que de mener leur grossesse au bout et de pouvoir se retrouver avec des enfants qu'elles n'ont pas les capacités d'élever au niveau financier. On a aussi, dans les années 50, plusieurs cas de mères infanticides qui viennent défrayer la chronique. Et du coup, progressivement, les mentalités, en fait, viennent évoluer. On va considérer qu'il est désormais le moment venu de passer d'une maternité accidentelle et du souvent au hasard à une maternité consciente et pleinement responsable. Ces propos sont tenus par Lucien De Wirth. Lucien De Wirth, c'était un député et il a proposé une loi pour pouvoir autoriser, légaliser la contraception. Et pour lui, cette loi, elle a pour objectif d'offrir à chacun la possibilité d'avoir des enfants quand il le désire, mais aussi la certitude de pouvoir les élever dignement. Cette loi, donc loi De Wirth, elle a été adoptée le 28 décembre 1967 et elle vient autoriser la contraception. Elle vient permettre la vente, l'importation de contraceptifs. Par contre, elle interdit la publicité faite au grand public, donc uniquement à l'égard des médecins. Elle vient également permettre la contraception pour les mineurs à condition d'avoir une autorisation parentale. Donc on voit que à cette époque, en fait, on commence à légèrement autoriser la contraception, mais ça reste encore limité. Et le but, ça va être du coup d'augmenter la natalité. On se dit que si la grossesse est désirée, elle a plus de chances d'arriver à terme. On cherche aussi du coup à limiter les avortements et également à limiter les cas de stérilité liés aux avortements. À cette époque, on estime environ 30% les cas de stérilité suite à des avortements. Aujourd'hui, on va voir que les règles juridiques perdurent pour pouvoir assouplir l'accès à la contraception. Alors, juridiquement, qu'est-ce qu'un contraceptif ? Donc, c'est intéressant de relever qu'en fait, on n'a pas du tout de définition légale de ce qu'est un contraceptif. D'accord ? Dans la loi, ce n'est pas du tout mentionné. Par contre, on sait que ça peut relever de différentes catégories juridiques. Un contraceptif, c'est soit un médicament, soit un dispositif médical. La différence entre les deux est assez technique, donc on ne va pas avoir le temps de l'aborder ici. Il faut juste savoir en fait que c'est les règles au niveau de la commercialisation qui vont être différentes, selon la nature du produit, d'accord ? Mais on ne va pas aller plus loin par rapport à ça. Par contre, alors on ne sait pas ce que juridiquement c'est un contraceptif, mais dans le code de la santé publique, on a différentes catégories de contraceptifs qui sont mentionnées. Donc on a un bel article, L5134-1, qui va fixer différentes catégories de contraceptifs. Et ce qui est intéressant par rapport à la présentation médicale tout à l'heure, c'est qu'on ne retient pas du tout les mêmes catégories en droit. Donc c'est intéressant. Alors en fait, dans le code de la santé publique, on vient distinguer les contraceptifs intra-utérins, les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux. Ces catégories sont assez critiquables parce qu'on a certains contraceptifs, on pourrait les mettre dans plusieurs catégories. Par exemple, le DIU, c'est un contraceptif intra-utérin, mais c'est aussi hormonal. Donc, c'est critiquable, c'est pas très bien fait. D'accord ? Et on a également la catégorie de la stérilisation à visée contraceptive qui fait l'objet d'une réglementation à part. Et donc, on va voir que la plupart de ces règles visent à permettre un accès facile à la contraception, mais on va quand même l'encadrer. Alors, au niveau des règles, donc les dispositifs intra-utérins, donc c'est une délivrance sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme, en pharmacie ou dans un centre de planning familial, et la pose se fait par un médecin ou une sage-femme. Au niveau des contraceptifs locaux, dans la loi, on parle uniquement en fait du diaphragme et des caps cervicales, donc c'est comme précédemment, une délivrance sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme, en pharmacie ou dans un centre de planning familial, et la première pose est faite nécessairement par un médecin ou une sage-femme. Les autres contraceptifs locaux ne sont pas mentionnés par la loi. On sait par contre, en tout cas dans cet article, on sait que ce sont des dispositifs médicaux qui vont être pour la plupart en vente libre. Donc on cherche à faciliter leur accès. Donc c'est le cas des préservatifs par exemple qu'on peut trouver dans les commerces. Concernant la dernière catégorie, les contraceptifs hormonaux, alors eux c'est intéressant, ils ne sont pas non plus mentionnés dans l'article. Alors là, pour connaître leur régime, en fait, on sait que ce sont des médicaments. Donc on va leur appliquer le régime de droit commun des médicaments. Et là, les concernant, ça va être une prescription d'un médecin ou d'une sage-femme, toujours une délivrance en pharmacie dans un centre de planification familiale, et dans le but de leur permettre, aux plus de femmes possible de pouvoir accéder à ces contraceptifs, on a également permis le renouvellement des prescriptions médicales qui datent de moins de 1 an par des infirmières ou par des pharmaciens pour une durée de 6 mois. Toujours dans la perspective de permettre aux femmes d'accéder à la contraception et d'éviter les grossesses non désirées. On s'est demandé s'il existait une clause de conscience que les pharmaciens pouvaient invoquer pour refuser de délivrer des contraceptifs. On a notamment, dans les années 80, plusieurs affaires dans lesquelles des pharmaciens invoquent leurs convictions religieuses pour refuser de délivrer des contraceptifs. Ces pharmaciens vont se baser sur un article du Code de la consommation, l'article L122-1. Et c'est un article qui dispose qu'il est interdit de refuser à la vente des produits, sauf motif légitime. Et donc pour eux, leur conviction religieuse, c'est un motif légitime qui leur permet de refuser la vente des contraceptifs en pharmacie. La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir du coup si c'est un motif légitime valable dans ce cas-là ou pas. Et elle a répondu le 21 octobre 1998 que non, les pharmaciens ne pouvaient pas invoquer leur conviction religieuse comme motif légitime pour refuser la vente d'un contraceptif. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un monopole commercial sur ces produits-là, sur la vente de ces produits-là, et donc ils ne pouvaient pas le faire. Mécontents, les pharmaciens sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour qui vient protéger un certain nombre de libertés fondamentales, dont la liberté religieuse. Ils sont allés demander, est-ce que cette décision ne serait pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ? Et la Cour s'est prononcée le 2 octobre 2001, dans le même sens que la Cour de cassation. Elle a dit, ici, non, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un monopole commercial. Donc on voit qu'on a une véritable volonté de protéger l'accès à la contraception, puisqu'on vient refuser de reconnaître l'existence d'une clause de conscience, de façon à ne pas restreindre les possibilités pour les femmes d'accéder à la contraception. Là, j'attire aussi votre attention, c'est vraiment, la décision est fondée sur l'existence d'un monopole commercial. C'est-à-dire que pour tous les contraceptifs qui ne relèvent pas du monopole commercial des pharmaciens, donc par exemple les préservatifs, là, ils peuvent parfaitement refuser de les vendre en pharmacie. Là, leur conviction religieuse peut constituer un motif légitime, d'accord ? Mais pour tous les autres qui sont nécessairement délivrés en pharmacie ou en planning familial, là, ils ne peuvent pas s'y opposer. On va également chercher à faciliter l'accès pour les mineurs. Donc, c'est dans les années 2000, on constate qu'il y a une forte augmentation des IVG chez les mineurs. Et on constate également qu'il y a certaines mineures qui vont avoir des difficultés pour accéder à la contraception, notamment dans les zones rurales. Donc, on va mettre en place plusieurs mesures pour pouvoir les aider à accéder à la contraception. Donc, la loi du 4 juillet 2001, je vous avais dit au départ, les mineurs pouvaient accéder à la contraception avec autorisation parentale. On vient supprimer cette autorisation parentale. Et on vient également permettre aux mineurs d'accéder gratuitement à la contraception dans des centres de planning familial. Pour faciliter encore plus leur accès à la contraception, on va également essayer, on s'est demandé si ça ne serait pas intéressant de permettre aux infirmières scolaires de venir délivrer des contraceptions d'urgence. Donc ça, c'est toujours dans la perspective d'éviter d'avoir par la suite des IVG. Et on a le gouvernement, du coup, qui adopte une circulaire le 6 janvier 2000 qui permet aux infirmières scolaires de délivrer dans les établissements scolaires une contraception d'urgence pour les mineurs qui sont dans un état de détresse. Pourquoi est-ce que ça a posé problème? Alors, au strict plan juridique, en fait, on a une règle qui dit que quand une loi elle prévoit quelque chose, il n'y a qu'une autre loi qui peut la modifier. D'accord? Là, le problème, c'est qu'on a une circulaire. La circulaire est un niveau juridique inférieur à la loi qui vient se placer en contradiction avec la loi. Tout à l'heure, je vous ai dit que les contraceptifs hormonaux, ils sont forcément délivrés sur prescription médicale et dans une pharmacie. Or ici, on a une contraception d'urgence qui relève de la catégorie du contraceptif hormonal, qui est délivrée sans prescription médicale par une infirmière dans un établissement scolaire. Donc là, la règle qui est posée par le gouvernement, elle est contraire à la loi, donc ça pose problème. Du coup, on est venu supprimer, annuler cette possibilité, et c'est le Conseil d'État, le 30 septembre 2000, qui est venu annuler ça. Donc ça, c'était le débat juridique, mais en vrai, ce débat juridique, c'était plus un prétexte pour venir contredire cette possibilité. Il y a des personnes qui ont dit que ce n'était pas le rôle des infirmières, ce n'est pas le rôle de l'école de permettre aux mineurs d'accéder à la contraception. On ne devrait pas écarter les parents de la possibilité d'avoir un dialogue avec leurs enfants sur ces thèmes-là. Donc voilà, en fait, c'est plus un prétexte qu'autre chose, d'accord, ce débat juridique. Comme le gouvernement veut absolument ouvrir cette possibilité, du coup, la circulaire, ça n'est pas possible, donc il adopte une loi le 13 décembre 2000. D'accord ? Donc maintenant, on a un large accès pour les mineurs, puisqu'elles peuvent se procurer une contraception d'urgence, soit gratuitement dans les pharmacies, et elles n'ont pas besoin de prouver leur minorité. Ça se fait de manière anonyme. Le pharmacien n'a pas le droit de lui demander une carte d'identité pour prouver qu'elle est mineure. D'accord ? Sinon, elle peut aller voir son infirmière scolaire. Et oui, c'est intéressant aussi, en 2000, on avait permis cette délivrance, mais on avait quand même encadré ça. Elle pouvait obtenir une contraception d'urgence par une infirmière, uniquement si elle était en état de détresse, et si aucun médecin, sage-femme ou centre de planning familial n'était immédiatement accessible. D'accord ? Sauf que, finalement, on est venu encore plus faciliter les choses, et le 26 janvier 2016, cette loi, elle a changé beaucoup de choses, et elle est venue notamment supprimer ces deux conditions. Donc il n'y a même plus besoin que la mineure soit dans un état de détresse ou qu'on n'ait pas de médecin immédiatement accessible pour que l'infirmière ait le droit de délivrer, sans avertir les parents, une contraception d'urgence. D'accord ? Donc c'est un large accès. Donc on voit vraiment cette volonté du gouvernement de permettre le plus possible l'accès à la contraception. Du coup, parfois, on voit que ça pose problème. C'est un peu le cas des mineurs. Il y a des débats qui se posent là-dessus. Et on a une technique de contraception qui pose aussi souvent beaucoup de problèmes. Il s'agit du coup de la technique de la stérilisation à visée contraceptive. Alors, il faut savoir que c'est une technique qui devient de plus en plus à la mode, alors, notamment aux États-Unis. Ça devient la mode pour les hommes de se faire stériliser. Comme mode de contraception, ça augmente de plus en plus. D'accord ? Juridiquement, c'est une technique qui peut poser un certain nombre de problèmes. À l'origine, elle était interdite, d'accord ? Sauf en cas de motif thérapeutique. Et on a malheureusement eu plusieurs cas, dans les années 60 notamment, de stérilisation qui était pratiquée de manière clandestine et souvent sans le consentement de la femme. Et on a eu beaucoup de cas, malheureusement, de stérilisation sur des personnes handicapées mentales, sur des femmes, à l'occasion de césarienne. Donc on faisait une césarienne et hop, au passage, on faisait une petite ligature des trompes, comme ça, on n'embête plus personne. D'accord ? Les femmes n'étaient pas au courant, elles n'avaient pas donné leur accord. Du coup, face à ça, en fait, en droit, quand on a un phénomène qu'on n'arrive pas à empêcher, on va le légaliser de manière à l'encadrer, en fait, et éviter les dérives. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et on a l'article L2123-1 maintenant qui pose les conditions pour pouvoir réaliser une stérilisation. Donc, c'est une pratique qui est possible chez les personnes qui sont majeures, capables d'exprimer une volonté libre, motivée et éclairée. C'est-à-dire que la personne va recevoir une information sur cette pratique. Ensuite, elle va avoir un délai de réflexion de 4 mois. Et suite à ce délai, elle va donner son consentement ou pas par écrit. D'accord ? Du coup, on voit que c'est vraiment important que la personne soit capable d'émettre une volonté. Et du coup, on va avoir un problème chez certaines personnes. On a vu que dans la pratique, on avait des personnes handicapées mentales qui venaient se faire stériliser. Et là, on se retrouve face à des personnes qui peuvent peut-être avoir des difficultés à comprendre l'information qu'on leur délivre, qui peuvent avoir des difficultés à exprimer leur volonté. Donc, comment on fait ? Du coup, le législateur est venu prévoir des règles spécifiques pour quand même limiter l'accès de ces personnes à cette pratique, pour éviter les dérives, comme c'est advenu par le passé. Donc, ce sont les personnes qui sont majeures protégées qui vont être concernées par la loi. Alors, les personnes majeures protégées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui sont placées sous un régime de protection juridique particulier, par exemple la tutelle ou la curatelle, parce qu'elles souffrent d'une altération de ses facultés mentales ou physiques, de nature à limiter l'expression de sa volonté. Donc, elle a des difficultés à exprimer sa volonté, elle peut avoir des difficultés à comprendre l'information. Donc, on va mettre en place des mesures pour essayer de la protéger, mais on va voir que les mesures lui permettent quand même d'accéder à cette pratique. Donc, on a un article spécial, donc le 2123-2, qui prévoit des règles spécifiques pour les personnes sous tutelle ou curatelle. Donc déjà là, au niveau juridique, ça me pose un problème, parce qu'on ne vise que les personnes sous tutelle et curatelle. Or, il existe plein d'autres mesures de protection juridique qui ne sont absolument pas mentionnées. Et donc, par exemple, les personnes qui sont sous habilitation familiale, sous mandat de protection future, sous sauvegarde de justice, ce sont des personnes qui, parfois, ont des altérations de leur capacité qui sont aussi importantes que les personnes sous tutelle. Et là, elles ne sont pas du tout mentionnées. Donc, elles ne sont pas spécifiquement protégées. Donc, j'ai un gros problème à ce niveau-là. Alors, quelles sont les règles pour leur permettre d'accéder à cette technique ? Déjà, il faut que la personne souffre d'une altération des facultés mentales qui constitue un handicap. Là, ça ne me va pas non plus. Pourquoi ? J'adore critiquer le législateur. Alors, déjà, en fait, il ne mentionne que l'altération des facultés mentales. Or, on a vu, pour être protégé, on peut faire l'objet d'une altération des facultés physiques. Sauf que les personnes qui auront une altération des facultés physiques ne sont pas concernées par cette loi. C'est uniquement la personne par les facultés mentales. Donc ça veut dire qu'une personne qui a une altération des facultés physiques, on peut plus facilement agir sur elle. Elle relève pas de cet article-là. D'accord ? Deuxième critère, encore plus critiquable, il faut que l'altération constitue un handicap. Et donc là, il y a des médecins dans la salle, je vous pose la question, qu'est-ce qu'un handicap ? Où est-ce qu'on place la barre ? À partir de quand une altération des facultés mentales constitue un handicap ? Est-ce qu'une personne trisomique est considérée, aux yeux de cet article, comme handicapée ? Et donc, est-ce qu'elle est concernée par ça ou pas ? En fonction de comment on interprète ces notions, eh ben on va pouvoir plus ou moins élargir en fait les personnes concernées. Et ça, ça peut devenir dangereux parce qu'on peut avoir des risques de dérives eugéniques notamment. Donc attention à ce genre de critères. Deuxième condition, il faut qu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement. Donc là, c'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je ne suis pas médecin, mais qu'est-ce que ça veut dire impossible de les mettre en œuvre efficacement? Comment on interprète ça? Est-ce qu'au vu du nombre important de contraceptifs qui existent, est-ce que ça, finalement, ça ne viendrait pas empêcher la réalisation d'une stérilisation contraceptive? On peut se poser la question. Toutefois, c'est toujours pratiqué. D'accord? Alors, donc en fait, l'acte va être demandé soit par la personne, soit par son représentant. On a un comité d'experts qui va vérifier que les conditions sont bien présentes. Si c'est le cas, l'acte pourra être pratiqué. Et là, j'aime beaucoup, le législateur nous dit, on ne peut pas passer outre le refus du majeur. Mais faut-il encore qu'il soit capable d'exprimer un refus, puisque la personne, elle souffre d'une altération de ses facultés. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement avoir des personnes qui seraient contre, mais elles ne sont pas capables de le dire, donc stérilisation. D'accord ? Donc là, on voit qu'on cherche à protéger, mais c'est quand même pas... c'est pas parfait. Et je vous disais, bah, les autres personnes, elles ne sont pas prises en compte, les autres majeurs protégés. Donc comment ça va fonctionner pour elles ? Pour ces personnes, en fait, du coup, ça va être comme pour là. Elles doivent être capables d'exprimer une volonté libre, motivée, éclairée. Si c'est le cas, elles pourront accéder à cette technique. C'est-à-dire que là, on n'a pas ces conditions restrictives. On ne dit pas il faut une contre-indication médicale absolue aux méthodes. Il faut une impossibilité de les mettre en œuvre efficacement. Donc, c'est finalement plus facile pour ces personnes. Donc, si elles ne comprennent pas bien en fait, l'information, mais qu'elles disent oui quand même, bah, on pourra pratiquer cette méthode. D'accord ? Donc, ce n'est pas parfait au niveau de la loi. La stérilisation contraceptive, elle pose également des problèmes au niveau des méthodes employées. Et là, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de l'implant est sûr. Et j'avais envie, du coup, de vous parler un peu au niveau juridique de ce qui s'est passé. Alors, vous avez peut-être entendu parler de tous les débats liés à l'implant est sûr, qui datent notamment de cet été. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cet été par rapport à cette méthode de stérilisation. Cet implant, c'est voilà, une sorte de petit ressort qu'on introduisait dans les trompes de Fallope et ça permettait d'entraîner une stérilisation. Juridiquement, cet implant, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif médical. Le dispositif médical, je vous ai dit, il y a des règles particulières concernant la commercialisation. Et là, en fait, la règle particulière, c'est que pour pouvoir être commercialisé en France et en Europe, il faut obtenir une certification européenne. C'est le marquage CE. Pour pouvoir l'obtenir, en fait, il faut que le fabricant, il vérifie que son produit, il répond bien à un certain nombre de normes de sécurité qui sont fixées par des directives européennes. Et il va notamment être obligé de procéder à une évaluation des bénéfices et des risques et une évaluation clinique de son dispositif, d'accord, pour voir les effets indésirables. Dans notre cas, cet implant, il posait plusieurs problèmes. Déjà, une fois qu'il est implanté, on ne peut plus le retirer sans procéder à l'ablation de l'utérus. Donc, ça veut dire qu'au départ, c'est plutôt bien l'implant, mais si c'est mal supporté, il y a une opération lourde derrière. C'est un implant qui est composé de différents métaux, et notamment du nickel, du titane, et il y avait des risques d'allergie aussi à cet implant. Pour les femmes qui ne supportent pas les métaux. On n'avait aussi aucune étude en fait sur les effets du vieillissement de cet implant sur l'organisme. Et on n'avait non plus aucune étude sur les effets du polymère qui compose également cet implant. On ne savait pas les effets de ce polymère sur l'organisme. Malgré tous ces effets potentiels, on a obtenu le marquage CE. D'accord ? Par contre, on était quand même conscient des risques et on a classé ce dispositif en catégorie 3, qui est la classe la plus élevée en fait en termes de risque. Donc on avait quand même conscience qu'il y avait beaucoup de risques. Donc là, on peut se demander au niveau juridique, est-ce que les règles qui sont fixées par les directives, elles sont suffisantes pour protéger la santé des personnes ? On sait qu'il peut y avoir des risques qui sont lourds par la suite. Est-ce que ça vaut le coup de rendre accessible une méthode qui pourrait comporter beaucoup de risques importants? D'accord? On peut se poser la question. Donc l'implant, en fait, il est commercialisé en 2002. Et dès 2003, on a des femmes qui commencent à signaler des effets indésirables. On a eu des effets de saignement, de maux de tête, de douleur, de dépression. On a aussi des décès qui auraient été imputables à l'implant parce que des femmes ont fait des allergies, du coup, au métal. C'est l'Agence nationale de santé, je crois, qui dit qu'il doit y avoir, entre 2003 et 2017, à peu près 1087 femmes qui ont développé des effets indésirables sur à peu près 240 000 implants posés en France. Donc, il y avait des effets indésirables, mais ce n'était pas non plus la majorité des femmes quand même. Mais malgré, il y avait une augmentation de signalement des effets, et on va attendre quand même 2015 avant de décider de prononcer une surveillance renforcée du dispositif. Donc on peut se demander si les règles là, enfin, entraînent une réaction de surveillance assez rapide. Dès 2003, on a des effets qui sont signalés, ils sont de plus en plus signalés, mais on attend 2015 avant de réagir. Est-ce que les règles sont suffisantes ou pas? On peut se demander. En avril 2017, on a un comité, donc le comité scientifique spécialisé technique, qui était chargé un peu d'évaluer ce produit, de surveiller. Il considère que malgré l'augmentation des effets indésirables, ça ne vaut pas le coup de modifier la balance bénéfice-risque du dispositif. Donc on considère toujours qu'il y a davantage de bénéfices que de risques. D'accord? Et en août 2017, donc c'était cet été, l'organisme qui était chargé de renouveler le marquage. Oui, je ne vous ai pas dit, le marquage CE, en fait, quand il est délivré, c'est pour une période de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il faut vérifier est-ce qu'on le renouvelle ou pas. Et donc là, l'organisme, il avait été conscient de tous les effets indésirables, donc il voulait pouvoir faire des études complémentaires avant de valider la mise sur le marché à nouveau. Et donc, il suspend la commercialisation pour une durée de 3 mois. Normalement, c'était jusqu'en fin octobre, il me semble. Et ce qui s'est passé, donc là on peut se demander, en fait, on suspend la commercialisation, est-ce qu'il faut privilégier la sécurité plutôt que le bien-être de la majorité? On avait, globalement, dans la majorité, il y avait beaucoup de femmes qui supportaient très bien ce dispositif, mais on avait quand même quelques femmes qui signalaient des effets qui, par contre, étaient importants et lourds. Comment est-ce qu'on fait un équilibre? Là, on avait dit, bah, du coup, on suspend. Mais ça prive une majorité de femmes qui supportaient très bien le produit, du bénéfice de ce produit. Donc, est-ce que juridiquement, c'est bien? Ça peut se débattre. Et donc là, le 19 septembre 2017, on a le laboratoire Bayer, du coup, qui commercialisait ce produit en France, qui a décidé, au vu notamment de la pression médiatique, d'arrêter la commercialisation en Europe. Par contre, ça continue aux États-Unis. Du coup, on peut se demander aussi, d'un point de vue juridique, comment on peut arriver à mieux protéger, en fait, de plus en plus on a des scandales sanitaires qui éclatent, comment est-ce qu'on peut peut-être protéger mieux les laboratoires, les médecins qui travaillent dans ces domaines? Des fois, ces scandales médiatiques qui ne sont pas toujours avérés. Des fois, oui, mais parfois, c'est un peu disproportionné, peut-être. Et donc, est-ce que nos règles, elles sont suffisantes à protéger les médecins et le personnel médical de tout ça? C'est peut-être des choses encore à revoir. Donc voilà, en fait, au niveau de la contraception, ce qu'on voit, c'est que il y a une volonté du législateur de favoriser l'accès à la contraception pour pouvoir éviter les IVG. Mais parfois, ça peut être critiquable concernant les personnes qui sont visées. Est-ce que c'était bien de rendre plus accessible aux mineurs? Est-ce que c'est bien de permettre aux majeurs protégés d'y accéder avec un contrôle plus ou moins efficace? Est-ce que c'est bien de mettre n'importe quelle méthode sur le marché? Et donc tout ça dans le but d'éviter la survenance des avortements, et on verra bah, du coup cet après-midi si cet objectif il est atteint ou pas. Voilà, je vous remercie.